reprend les rênes de l'émission de René, du coup, en ce mercredi 24 septembre, et on commence... Je me suis trompé sur la date. Pardon. En tout cas, pardon, on reprend du coup l'émission de René pour la deuxième édition, une semaine après. Et comme premier groupe, du coup, on va laisser la parole à Lorelai et Léa pour l'interview de Outeuse Perfechter. Excusez-moi, responsable innovation sociale et culturelle à la condition publique de Roubaix. C'est à vous.
Bienvenue. Alors, on voit que d'année en année, la condition publique prend de plus en plus d'importance dans le paysage culturel de la métropole lilloise. Donc, plutôt grâce à ses démarches en matière d'innovation sociale, donc à l'éclectisme aussi de la programmation proposée, ou encore à la place grandissante accordée au public. On va justement, avec vous, se pencher un peu plus sur vos pratiques de médiation pour essayer de comprendre dans quelle mesure votre politique de diversité culturelle se décline dans les politiques de médiation que vous mettez en place tout au long de l'année.
D'accord. Donc on va d'abord parler de la programmation de la condition publique et de son statut. Donc la condition publique a un statut d'établissement public de coopération culturelle. C'est-à-dire que vous avez un conseil d'administration qui doit voter vos budgets, par exemple. Et du coup, d'où viennent vos financements ?
Bonjour déjà.
Bonjour.
Alors, nos financements, on est une institution publique. Donc, nos financements, ils viennent de trois tutelles. C'est la région, la métropole lilloise et la ville de Roubaix. Et évidemment, on a aussi des fonds propres, mais ça, c'est des fonds, d'une part, qu'on obtient par des locations, par des privatisations, par nos recettes de billetterie, mais également, sur projet, on peut avoir d'autres financements, publics ou privés, d'ailleurs.
Et on voit que de plus en plus d'institutions culturelles ont du mal à s'en sortir financièrement ou à proposer de nouvelles choses, par exemple, par manque de moyens notamment. Et ça n'a pas l'air d'être votre cas. Est-ce important pour vous de garder une telle diversité dans votre programmation et par la même occasion une telle diversité dans les publics ?
Oui, c'est très important. Après, la condition publique, elle n'a pas un budget énorme. On fait beaucoup de choses avec peu de moyens, mais on sera plus à l'aise si on avait un peu plus de budget. Donc, c'est sûr que la condition publique, elle vit, elle revit, on va dire, aussi depuis 2 ans. Ça foisonne. On a vraiment un projet qui a l'air de correspondre aux attentes de notre public et aux attentes aussi des tutelles. Mais c'est pas pour autant que c'est pas complexe pour nous aussi de notamment en matière de personnel, de suivre cette trajectoire. Mais l'idée de garder deux périodes très fortes de programmation où vraiment tous les week-ends on est sûr de trouver un événement à la condition publique auquel on peut assister, plus une ouverture au quotidien de l'institution, donc de mercredi à samedi, on est sûr que tous les après-midi, entre midi et 19h, le portail de la condition publique est ouvert et on peut rentrer, on peut prendre un café, on peut faire un atelier, on peut fabriquer quelque chose au Fab Lab, on peut faire ses courses au marché bio le mercredi, etc. Donc ces deux aspects de la condition publique, d'une part un lieu de programmation éclectique, vivant, de grande envergure, et de l'autre côté la condition publique comme un lieu de vie et de travail qui est ouvert quotidiennement, les deux choses, on les avance en même temps.
Et pour garder cette idée de diversité dans votre programmation, justement, comment faites-vous le choix des artistes ou des événements ? Plutôt par des appels à projets ouverts ?
Comme la condition publique n'a pas un budget énorme, on essaie de ne jamais faire des programmations tout seul. On est toujours en partenariat avec d'autres structures culturelles. Donc on va accueillir les Latitudes contemporaines pour un week-end de danse contemporaine à la condition publique. On va travailler avec le Grand Mix, on va travailler avec l'Aéronef, avec la Caveau Poète, avec des associations aussi comme Art.M, etc. Donc Donc on essaie de ne jamais faire des choses tout seul parce que tout simplement on n'a pas les moyens aussi de le faire. Et donc du coup, c'est souvent une discussion avec les autres structures, avec nos partenaires anciens ou nouveaux, que la programmation se dessine et s'établit pour l'année.
Très bien. Alors, merci pour vos premières réponses. Du coup, moi, je voudrais aborder plutôt le thème de tout ce qui est création, innovation et le thème des publics. Donc, d'ailleurs, on peut dire que la condition publique est de plus en plus visible dans la métropole lilloise. D'ailleurs, du coup, vos stratégies de médiation ont-elles évolué dans ce sens durant ces dernières années? Et si oui, justement, de quelle manière?
Alors, pour moi, la visibilité de la condition publique dans l'espace public et la médiation, c'est deux choses différentes, on va dire. D'une part, la visibilité, elle est sûrement plus forte parce qu'on a plus de partenariats, on a plus de communication. Peut-être le fait que ça bouge, ça fait que les gens ils se sont re-intéressés au lieu qui a été un peu vécu comme peut-être endormi avant. Donc il y a un bouche à l'oreille, je dirais, qui est très fortement en cours. Je pense aussi le fait que voilà, qu'on a renforcé les partenariats de partout. Ça fait que la condition publique, elle est plus visible. Et après, la médiation, par contre, c'est peut-être un autre sujet, dans le sens que, médiation dans le sens développement du public et dans le sens que à qui est-ce qu'on s'adresse et comment est-ce qu'on attire les gens, ça passe beaucoup par la communication, évidemment, notre Facebook, notre charte graphique, notre plaquette, le bouche à l'oreille, et aussi je crois que par le choix de la programmation, c'est-à-dire de ramasser la programmation autour des week-ends qui font des petits festivals où on est sûr que tous les week-ends on trouve quelque chose à faire, du coup ça fait une régularité aussi pour les gens, pour qu'ils puissent venir quasi automatiquement, on va dire, sans fouiller longtemps qu'est-ce qu'on peut faire, à quel jeudi soir perdu dans le mois on peut faire un truc à la condition publique. Là c'est sûr que tout le week-end il y a quelque chose. Voilà, je pense que ça c'est des raisons pour la plus grande visibilité peut-être. Et le changement dans la médiation, c'est peut-être que on a arrêté on a au lieu de se dire ok, on a un public qui est éloigné de la culture, auquel il faut rendre accessible une offre culturelle de très grande qualité par des activités spécifiques, nous on a plus le pli maintenant à la condition publique de se dire on va essayer de trouver des entrées diverses et variées, par exemple le marché, le potager sur le toit, le Fab Lab qui est ouvert tout le temps, où on peut venir fabriquer des petites choses, l'atelier de construction qui est ouvert au fond de la rue couverte les mercredis après-midi, où on peut venir fabriquer un lit de bébé, quelque chose comme ça, ou juste prendre un café, discuter. C'est à partir d'une plus grande habitude de venir que peut-être un jour on va franchir aussi le seuil de la salle de spectacle pour aller voir un spectacle, un concert. Mais c'est plus par le faire ensemble, par tout ce que les gens peuvent nous apporter aussi en savoir-faire, en culture qu'eux, ils apportent, que les projets naissent et que l'envie de s'approprier ce lieu grandit aussi.
Très bien. Et du coup, dans ce même ordre d'idées, je sais aussi que vous valorisez pas mal les initiatives de particuliers, donc soit des habitants du quartier par exemple, ou comme vous le disiez tout à l'heure, celles de collectifs artistiques. Mais comment vous faites pour faire savoir à ces particuliers qu'ils peuvent venir vous proposer un projet
En fait, au fur et à mesure, enfin là, on a vécu, par exemple, pour le Fab Lab, ça s'est ouvert depuis septembre. Septembre 2016, du coup, donc depuis une bonne année, et vraiment on a l'impression que c'est surtout le bouche à l'oreille qui fait que les gens ils savent de plus en plus que si on a un projet de carte pour Noël, ou si on a besoin d'un une petite pièce qui est cassée dans un appareil, ou si on a besoin de si on a envie de faire des porte-clés, si on a envie d'apprendre à dessiner sur ordinateur, etc., il y a un endroit où on peut le faire, et c'est vraiment c'est presque automatique que ce lieu il a commencé à fonctionner, et à voilà, sans que la condition publique elle a fait une communication spécifique sur ce. Après, évidemment, dans toutes nos plaquettes, sur Facebook, partout, c'est écrit que c'est un laboratoire ouvert à tous, où on peut venir fabriquer des choses. Enfin, toutes nos activités sont sur tous nos supports de communication. Après, on a aussi une communication, on essaie de mettre en place une communication de plus grande proximité, ce qui n'est pas évident, parce que le Facebook de la condition publique, c'est sûr qu'on se trouve, nous, dans une bulle plutôt de gens qui sont intéressés par des lieux culturels, etc. Et peut-être notre voisin, même s'il est à 10 mètres de chez nous, il a pas la même, il n'est pas dans la même bulle Facebook, etc. Donc du coup, ça passe beaucoup aussi cette communication à travers des comités de pilotage, par exemple. Beaucoup de nos projets, comme par exemple le festival Pilo Rendez-vous, ils ont préparé en amont pendant très longtemps. Pilo Rendez-vous, par exemple, c'est presque un an, ça démarre en novembre, les premiers comités de pilotage, et le festival il est en juillet. Donc du coup, on invite les gens via les associations ou aussi les habitants un par un de venir nous proposer des choses pour le festival, valoriser les activités qu'ils ont pendant l'année dans ce cadre-là. Et c'est beaucoup aussi par ce biais-là que les gens ils savent qu'on peut venir avec un projet et le proposer et le réaliser, soit en tant que particulier, soit en tant que groupe qui voudrait faire quelque chose. Par exemple, groupes de hip-hop, ils vont venir en disant que ouais, est-ce qu'on peut avoir votre verrière parce que on voudrait faire un repas de solidarité, est-ce qu'on peut le faire dans la verrière, on a ce projet-là, et donc on essaie de voir dans quelle mesure ça peut rentrer chez nous, etc.
En plus, si je peux me permettre, ce que j'ai trouvé intéressant notamment aussi, c'est que au-delà des initiatives de particuliers, c'est vraiment la diversité des activités proposées, tout comme des rendez-vous fixes, comme le marché du mercredi, ou au contraire des événements annuels, comme le NAME qui s'est passé ici à la condition publique cette année, ou des ateliers ouverts vraiment tous les jours, qu'on voit que vous cherchez à toucher une diversité de public, et ça passe. Vous êtes demandeur en fait vraiment de ces initiatives individuelles en fait.
Oui. Oui, parce que on a l'impression que l'EPCC condition publique tout seul, dans le paysage culturel, on peut plus faire tout seul. On a besoin des intelligences des autres, et on a besoin de mettre des moyens dans un pot commun. On a besoin de partager les ressources. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très fort à la condition publique et qui est défendu dans quasiment tous les projets qu'on fait.
Du coup, on va faire une toute petite interlude musicale avec notamment un des artistes qui a pu passer au festival NAME de cette année, et on se retrouve tout de suite après.
Sleep. Waste your
Donc c'était Wake Up de Laurent Garnier pour les plus aficionados. Voilà, on continue.
Donc je vais reprendre justement autour de cette question des publics. On se demandait si vous aviez remarqué une certaine diversité des publics qui peuvent fréquenter la condition publique. Et justement, à votre avis, à quoi cela est dû? Peut-être au-delà de la programmation, est-ce qu'il y a d'autres facteurs?
C'est sûr que la programmation est très éclectique, donc on n'a pas un public abonné rock, par exemple, qui va venir tout le temps à la condition publique parce qu'il y a tout le temps des concerts rock ou électro. Mais c'est chaque événement a son propre public et aussi les partenaires qui font des choses avec nous, ils amènent leur public. Et après, le lieu de vie, donc pour la fréquentation au quotidien des endroits où on peut juste être bien, le restaurant, le potager, le marché, les ateliers, on essaye de faire en sorte que les publics peuvent se croiser à cet endroit-là. Et on est très heureux quand on voit que des personnes qui d'habitude ne se fréquentent pas peuvent se retrouver, par exemple, dans un lieu comme le Fab Lab, entre un gamin du quartier qui vient tous les mercredis, sa maman qui l'accompagne de temps en temps, un chercheur, ingénieur qui fait une recherche dans le Fab Lab, un artiste qui est en train de fabriquer avec des jeunes en formation en métallurgie, une œuvre d'art. Tout ce petit monde peut se croiser dans le Fab Lab et s'apprendre mutuellement des choses d'un coup avoir envie des nouveaux projets, etc. Donc c'est ça l'intérêt en fait de ces lieux-là, que le public, il par le faire, peut se rencontrer. Et donc c'est pareil pour les ateliers cuisine, par exemple. Donc on a tout un programme autour de la notion se cultiver, donc autour de l'alimentation, autour des circuits courts dans les légumes et les fruits, etc. Tout un programme autour de cette question-là, et entre autres donc des ateliers cuisine avec des chefs. Et là, pareil, dans les 10 participants, il y a de tous bords. Et donc, en faisant un dessert ensemble, il y a quelque chose qui se passe qui dépasse les milieux sociaux ou les provenances, les cultures. Et c'est assez intéressant.
C'est vraiment un point de rencontre. Un lieu où justement on essaie de favoriser les échanges.
Oui, c'est ça qu'on remarque, c'est que justement on cherche à faire venir les gens pour autre chose que ce pour quoi ils venaient à la base en fait. Enfin, par la diversité, ils viennent pour une chose et essaient de s'intéresser à d'autres.
Oui, voilà, donc l'idée c'est qu'on ouvre une porte. Par exemple, on a un grand projet média pour des jeunes entre 15 et 30 ans. On va dire. Et donc ils viennent tous les mercredis chez nous faire leur projet média. Apprendre à tourner, apprendre à faire une émission radio. Et après, on espère qu'ils ont envie aussi de voir l'expo Habitarium qui va démarrer fin mars, parce qu'ils auraient travaillé dans ce lieu et du coup, ça sollicite leur envie de voir ce qui se passe par ailleurs.
Très bien. Et du coup, est-ce que vous avez des objectifs sur le long terme dans ce sens-là? Par exemple, je ne sais pas, un agrandissement du lieu ou des nouveaux partenariats, mais hors région peut-être ou...
Oui, alors pour nous, l'idée de... l'horizon pour 2018, je pense que c'est encore de consolider et d'aller plus loin dans nos lieux de fabrication, c'est-à-dire la halle C qui est donc tout au fond de la rue Couverte, où elle est en train d'être aménagée en fait pour devenir vraiment un lieu où on peut vraiment construire. Pour l'instant, c'est plutôt un hangar de stockage. Et donc c'est beaucoup aussi la ville de Roubaix qui nous aide à aménager ce lieu. Et donc l'idée, ce sera vraiment que il y a des il y a plein de collectifs qui peuvent s'installer à cet endroit-là, des artisans, des artistes, des architectes, des designers, qui peuvent créer ensemble à cet endroit-là un lieu où on peut apprendre des choses, partager des choses, fabriquer des choses. Et donc, pour nous, il y a encore, avant d'agrandir, parce qu'on a déjà 10 000 mètres carrés, donc on n'a pas besoin d'aller plus... Enfin, il y a plus encore une consolidation, je pense, dans la démarche qu'on a entamée. Aller plus loin dans ce qu'on est en train de faire. Par exemple, on va ouvrir un camping sur les toits de la condition publique cet été, le 9 mai précisément. Donc on va envahir plus encore les magnifiques toits terrasses qui sont actuellement certes déjà en accès, mais il y a pas encore un bar, il y a pas encore une programmation, il y a pas encore voilà. Et à partir du 9 mai, il y aura même la possibilité de dormir sur les toits.
Super info.
Et donc, pour conclure, on va parler de la visibilité de la structure. Donc, tout d'abord, pour vous, à partir de quel moment pouvez-vous dire que votre médiation est réussie ?
Selon quels critères ça fonctionne vraiment bien, quoi ?
Alors, ça fonctionne vraiment bien s'il y a une libre adhésion, on va dire, et une autonomie dans l'appropriation du lieu. Et ça, par exemple, je pourrais le dire pour le projet Média, parce que je les suis plus près, mais c'est valable aussi pour le Fab Lab. On sent qu'on n'a plus besoin à mobiliser le public. Il vient tout seul. Il y a quelque chose qui s'est mis en route, une espèce de énergie et dynamique qui fait que le projet il fonctionne, et qu'il y a 40 jeunes qui sont là tous les mercredis soirs pour le projet Média, et que là il y a une réussite. Et une autre réussite, mais j'ai déjà dit un peu avant, c'est quand je sens que le public se croise. Je trouve que c'est vraiment une des... La culture est souvent vécue comme clivant. Et moi, je trouve qu'au contraire, il y a de moins en moins d'endroits où on peut se rencontrer, où on peut faire des croisements étonnants. Et je pense que la culture, elle devrait être un lieu comme ça. Et pour moi, une médiation a réussi quand elle fait se rencontrer des gens qui n'ont pas d'autres possibilités de se voir ailleurs.
Très bien. Et est-ce que le fait d'être implanté à Roubaix, ça change quelque chose du point de vue de la médiation, justement, ou comment vous faites pour réussir à attirer le public roubaisien autant que le public lillois ou de la métropole plus généralement ?
D'une part, on a une programmation qui rayonne, parce que c'est des artistes très importants. Donc on n'a pas seulement des gens de Lille, mais aussi de Belgique, etc., qui viennent quand c'est des grands temps forts, parce que la programmation, elle attire tout ce monde-là. Et après, par rapport à notre quartier, par exemple, on est particulièrement... particulièrement attentif à tisser des liens, à être vraiment très très présent aussi dans le travail des associations, dans les instances, dans le conseil citoyen, dans les réunions, et à faire en sorte que les gens puissent participer aux événements. Donc, comme je disais tout à l'heure, les comités de pilotage, par exemple, où vraiment on ouvre nos portes pour qu'on puisse co-construire des événements ensemble. Et je pense que c'est ça qui fait que l'adhésion locale se fait. Et après, on a un grand potentiel, je pense, au-delà de Lille, c'est Waterloo. C'est Tourcoing, toutes ces villes qui sont aussi à proximité, mais qui sont peut-être pas encore identifiées la condition publique comme un lieu qui est tout près. Waterloo, c'est vraiment pas loin de chez nous. Donc, ouais, je pense qu'il y a là un travail à faire encore.
Et donc, pour conclure, comment voyez-vous évoluer la condition publique ? Que voulez-vous mettre en place dans les années à venir pour attirer toujours plus de monde à Roubaix ?
Donc, au-delà de ce que vous avez déjà dit tout à l'heure, de consolider ce qui est déjà en place, plus ou moins.
Ouais. Là, du coup, je suis... je suis peut-être pas la meilleure placée pour les grands projets à venir, mais
qu'est-ce que vous aimeriez peut-être du coup?
Ouais,
qu'est-ce qui vous plairait?
Ouais, bah pour moi, une grande envie, c'est d'avoir encore plus de gens qui travaillent à la condition publique, des artistes qui peuvent être là à long terme, mais aussi des choses peut-être hors le mur. On sera un tout petit peu contraint en 2019 parce qu'il y aura des travaux dans la rue couverte. Donc on va expérimenter plein de... D'une part, des lieux dans la condition publique qu'on n'a pas encore trop exploité, parce qu'il y a une grande partie qui ne sera pas trop accessible. Et d'autre part, on va aller dehors, on va faire des choses dans la rue, on va sortir au bord du canal qui est pas loin, et donc le lieu, c'est vraiment un lieu de tous les possibles, et je pense qu'on aura toujours des bonnes idées pour remplir ce site qui est vraiment très très beau.
Bah, super.
Merci beaucoup.
Ouais, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir.
Merci à vous.
Et puis, du coup, on conseille très vivement de se rendre à la condition publique.
C'est pas si loin que ça.
C'est vrai, c'est juste à côté, 14 Place Federbe à Roubaix. Et on vous dit à bientôt et on va suivre du coup la programmation de ce lieu avec plaisir.
Merci beaucoup.